Neuvième jour. Deux pécheresses. La contrition et l'amour miséricordieux. Je n'ai pas eu besoin d'apprendre à pardonner, car le Seigneur m'a appris à aimer. L'humilité nous conduit comme par la main vers cette façon d'aborder notre prochain qui est la meilleure, comprendre tous les hommes. Vivre en bonne entente avec tous, pardonner à tous, ne créer ni division ni barrière, nous comporter toujours comme des instruments d'unité. Ce n'est pas en vain qu'il existe au fond de notre âme une forte aspiration à la paix, à l'union avec nos semblables, au respect mutuel des droits de la personne, de sorte que tous ces égards se transforment en fraternité. C'est le reflet de ce qu'il y a de plus précieux dans notre condition humaine. Si nous sommes tous enfants de Dieu, la fraternité ne se réduit pas à un lieu commun. Elle n'est pas non plus un idéal illusoire. Elle apparaît comme un but difficile, mais réel. Simon le pharisien tenait beaucoup à inviter le maître. Voici qu'une femme, pécheresse notoire, vint troubler cette rencontre. Elle est en larmes. Elle lave les pieds de Jésus. Elle les essuie avec ses cheveux. Elle brise un vase d'albâtre et en répand le parfum sur le Christ. Simon ne comprend pas. Si le maître est incapable de deviner que cette femme est pécheresse, ce n'est pas un prophète. Mais Jésus est plus qu'un prophète. Il est la parole qui sonde les reins et les cœurs. Il est juge. Il prend son hôte à part. J'ai quelque chose à te dire. Une parabole amène Simon à comprendre ce qui s'est passé. Je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont remis, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Puis il dit à la femme, « Tes péchés sont remis. » « Qui est-il pour remettre les péchés ?» se demandent les convives. « Seul Dieu peut faire cela. » Jésus manifeste donc sa divinité. La pécheresse, elle, avait confiance dans la toute-puissance miséricordieuse de Jésus. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Ses larmes se transforment en pleurs de joie. C'est sous le signe de la paix soit avec vous, et dans la joie de sa résurrection, que Jésus institua le sacrement de pénitence en soufflant sur les apôtres. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. José Maria appelait la pénitence le sacrement de la joie. La condition du pardon, c'est la contrition qui naît de l'amour de Dieu. Un et trine pour l'homme. Du Père miséricordieux, de Jésus, l'ami qui aime de toute la folie divine de son cœur, de l'esprit d'amour qui console dans la douleur. Le pardon de Dieu s'exprime par les mots d'un pauvre prêtre, pécheur aimant, mais pourtant autre Christ. Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, qu'il vous pardonne, qu'il vous accorde le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Il faut simplement la contrition, la douleur de l'âme, une douleur qui n'est pas nécessairement sensible, et la ferme résolution de ne plus pécher avec la grâce de Dieu. Pour José Maria, la vie chrétienne est une lutte. Commencer et recommencer. Sa rencontre amoureuse avec Jésus dans le sacrement de la réconciliation était au moins hebdomadaire. C'était davantage l'amour de Dieu qu'une quelconque pensée de lui-même qui l'y poussait. Il en sortait ému comme un enfant, ébloui par les merveilles divines du cœur miséricordieux de notre Seigneur. Les merveilles du pardon de Dieu font écho au repentir amoureux. Jésus est le médecin divin, venu pour la pécheresse en larmes et pour tant d'autres malades. Plus tard, à Jérusalem, une autre pécheresse s'approche du Maître, contrainte et forcée cette fois. Jésus avait passé la nuit au mont des Oliviers. Sans doute était-il resté de longues heures dans l'intimité du Père et de l'Esprit. Peut-être avait-il prié pour elle et pour ses accusateurs. Dès l'aurore, le voici au temple, où les foules se pressent autour de lui. Dans le tumulte, scribes et pharisiens lui amènent une femme surprise en adultère, et, précise saint Jean, ils la mettent bien en vue. La pauvre femme se retrouve devant beaucoup d'hommes. Elle baisse les yeux pour éviter de rencontrer leurs regards qui ne sont pas purs. Elle n'est qu'un jouet dans les mains de ces hommes, un objet que l'on promène. Ils n'ont que faire d'elle. Ce qu'ils veulent, c'est mettre en difficulté le maître. Et là, comme un prétexte, un hochet dans leurs mains. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a prescrit dans la loi de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu ? Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus sait que l'impureté est une matière poisseuse. Saint Paul dira qu'il vaut mieux ne jamais en parler. Jésus, vrai homme et vrai Dieu, respecte cette femme qu'ils accusent de manière si vulgaire. Il respecte la femme parce qu'il est né d'une femme et que la femme incarne la tendre beauté de l'amour. Il respecte la femme parce qu'il est né de l'esprit et que l'esprit est amour. Se baissant, Jésus se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Celui qui est plus que la loi et les prophètes n'entre pas dans le jeu des faux juges. Ils ne sont même pas dignes d'être regardés. En même temps, le Seigneur n'humilie pas cette femme de son regard. Qu'écrivait-il ? Nul ne le sait. Peut-être les noms des accusateurs. Dieu connaît chacun par son nom. Il a tout pouvoir. Il est le nom et il fait connaître sa bonté. Peut-être écrivait-il les péchés de ses hommes, ou encore les commandements, chemin vers l'amour, ou les béatitudes, visage de l'amour. Ils ne comprennent rien. Ils insistent. Il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Et se baissant à nouveau, il se remit à écrire sur le sol. À ces mots, ils se retirèrent un par un, à commencer par les plus vieux. Jésus lit dans les cœurs, l'hypocrisie des scribes et des pharisiens lui est insupportable. D'un coup, chacun se rend compte de son péché. Les plus âgés d'abord, peut-être plus conscients de leur faiblesse. La femme n'avait pas bougé. Elle se retrouve seule devant Jésus. Elle ne clame pas son innocence, elle attend que Jésus parle. Elle sait qu'il sait tout, et son silence est comme un aveu. Le Sauveur lui demande pourtant où sont passés ceux qui l'accusaient. Aucun n'a osé la condamner. « Moi non plus, lui dit Jésus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pêche plus. » Jésus ne condamne pas, il pardonne. En lui, Dieu nous aime. Il ne vient pas nous condamner, nous jeter à la face notre indigence, notre mesquinerie. Il vient nous sauver, nous pardonner, nous excuser, nous apporter la paix et la joie. Pour que le Seigneur nous pardonne, il nous faut pardonner aux autres. Que devons-nous faire pour être contents ? Je vous livrerai ma propre expérience. D'abord, savoir pardonner. Pardonner toujours, car ce sont les petitesses de l'orgueil qui enlèvent la paix. N'y pense plus. Pardonne. Nous ne pouvons pas avoir comme une liste noire de personnes, proches ou lointaines, rayées de la carte de notre chemin sur terre. Avec un peu de sens de l'humour, un mot dont la racine est celle d'humilité, nous nous rappellerons que chacun est aimé de Dieu et nous comporterons comme des enfants de Dieu avec les enfants de Dieu. Douleur d'amour, parce qu'il est bon, parce qu'il est ton ami, parce qu'il a donné sa vie pour toi, parce que tout ce que tu as de bon est à lui, parce que tu l'as tellement offensé, parce qu'il t'a pardonné, lui, à toi. Pleure, mon fils, de douleur d'amour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.